Je ne sais pas si on peut parler de phénoménologie du visage, parce que la phénoménologie décrit ce qui apparaît. De même que je me demande si on peut parler du regard tourné vers le visage. Le regard est toujours une connaissance, une perception. Et je pense que l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est quand vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de regarder autrui, c'est de ne pas connaître même la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur de ses yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. Par conséquent, la relation avec le visage peut être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne se réduit pas. Or, il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, son exposition sans défense. C'est la peau la plus nue qui reste la plus nue et la plus dénuée. C'est une nudité décente, mais la plus nue, dans certains sens, la plus dénuée aussi. Il y a, dans le regard du visage, il y a une pauvreté qu'on essaie de cacher d'ailleurs en se donnant une contenance ou en prenant des poses, en se masquant. Il y a donc cela, et en tout cas, c'est cela qui apparaît à celui qui aborde autrui. Et par conséquent, il y a dans le visage absolument exposé, comme menacé, comme nous invitant à un acte de violence. Et en même temps, le visage, c'est ce qui vous interdit de tuer. Et alors, c'est une signification sans contexte. Une signification sans contexte, je veux dire, ce n'est pas le personnage dans un contexte. Il est président du Conseil d'État, ou vice-président du Conseil d'État, ou il est
Professeur à la
professeur
Sorbonne.
Sorbonne, ou il est fils d'un tel, n'est-ce pas? Tout ce qui est dans son passeport, et tout ce qui est dans sa manière de s'habiller, sa manière de se présenter, et tout sens, toute signification est toujours une signification dans un contexte, n'est-ce pas? C'est dans une relation avec autre chose que nous parlons du sens. Ici, le visage est le même sens. C'est moi, c'est moi. Dans ce sens-là, on peut dire que le visage n'est pas vu. Il est ce qui ne peut pas devenir un contenu que votre pensée a embrassé. Il est l'incontenable. Il vous mène au-delà dans ce sens-là, et c'est précisément en cela que le visage a une signification qui nous fait sortir de l'être proprement dit, de l'être qui est toujours le corrélatif d'un savoir. La vision est une adéquation. C'est la recherche d'une adéquation. La vision est ce qui, par excellence, aborde l'être. Au contraire, le visage est un rapport éthique. C'est ce qu'on ne peut pas tuer, ce qu'on peut tuer, mais dont le sens consiste à dire tu ne tueras point. Vous savez que le meurtre est une chose assez courante. On peut tuer autrui, mais nous sommes alors dans une relation où le visage n'a pas été vu. Où le visage n'a pas signifié, disons. La relation du visage avec la parole, avec le discours, le fait que le visage parle, il parle dans ce sens-là que c'est lui qui rend possible tout discours. Il est la condition de tout discours. La véritable relation, je réfutais tout à l'heure la notion de vision comme authentique dans la relation avec le visage. C'est la relation sociale par excellence, la relation du discours qui est la véritable relation avec autrui. Je dois distinguer dans le discours le dire et le dit. Que le dire doive comporter un dit est une nécessité du même ordre que celle qui impose une société, et qui impose une société avec des lois, avec des institutions et avec des relations sociales au sens courant du terme. Mais que le dire, c'est-à-dire le fait que devant le visage, devant autrui, je ne reste pas en le contemplant, le fait que le dire est une, dans un certain sens, une manière de saluer autrui. C'est la difficulté qu'il y a de se taire en présence de quelqu'un. C'est à son fondement ultime, c'est pas, dans cette signification propre du dire, quel que soit le dit. Parler de la pluie du beau temps, mais il faut dire quelque chose, montrer qu'on a rencontré quelqu'un. Le tu ne tueras point. Et c'est la première parole du visage. Le tu ne tueras point est un ordre. Il y a par conséquent, dans l'apparition du visage, un commandement. Comme si un maître me parlait. Et je penserai en effet que la relation avec Dieu se fait à partir du visage, à partir du visage d'autrui. Il n'y a pas de tête à tête avec Dieu sans autrui vers lequel je suis renvoyé et à partir duquel je reçois l'ordre. Et en même temps, le visage, c'est le visage dénué. Le visage, c'est la nudité du dénuement. C'est le pauvre pour lequel je paye tout, à qui je dois tout. Et moi, qui que je sois, je suis celui qui doit trouver de ressources pour répondre à cet appel du pauvre. Et là, l'analyse du visage telle que je viens de la faire avec cette maîtrise d'autrui et avec sa pauvreté et avec ma soumission et ma richesse est le présupposé des relations humaines, est présupposé de la morale humaine, et s'il n'y avait pas cela, nous ne dirions même pas devant une porte ouverte, après vous, monsieur. C'est cet après vous, monsieur, que j'ai essayé de décrire. Comment se fait-il qu'on puisse punir? Comment se fait-il qu'on puisse réprimer? Comment se fait-il qu'il y ait une justice? Et alors là encore, je le répète, c'est à partir de ces égards pour le visage d'autrui et à l'égard d'autrui pour le visage que, étant donné la multiplicité, étant donné la présence du tiers à côté de l'autre, que apparaissent les lois et que la justice elle-même s'instaure. Et par conséquent, que cette relation exceptionnelle avec autrui, avec le visage d'autrui dans son isolement, soit en même temps la relation avec tous les autres hommes, et par conséquent la nécessité de modérer ce privilège d'autrui, et c'est la naissance même de justice qui doit être contrôlée certainement par cette relation interpersonnelle initiale, mais qui est absolument inéluctable, qui est absolument incontournable. Et si je suis seul avec vous, je vous dois tout. Mais il y a le tiers. Est-ce que je sais ce que vous êtes par rapport au tiers? Est-ce que je sais si le tiers est d'accord avec vous? Il faut par conséquent peser, juger et comparer l'incomparable. C'est à partir de là que je veux chercher le sens. Je ne pense pas que toute philosophie doit être programmatique. L'idée du programme de la philosophie, c'est une idée husserlienne. Un effort philosophique doit chercher un sens et le montrer aux autres. Et on peut construire une éthique en fonction de ce que je viens de dire, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas du tout mon thème. Le savoir tel qu'il a été recherché, le savoir absolu tel qu'il a été recherché par la philosophie, tel qu'il était prêché ou promis ou, ou recommandée par la philosophie, est une pensée de l'être qui est toujours la pensée de l'égal. Dans la vérité, l'être est embrassé, même si la vérité n'est pas définitive, il y a promesse d'une vérité plus complète. Peut-être l'être fini que nous sommes ne peut pas, en fin de compte, achever la tâche du savoir. Mais c'est en tout cas une tâche à travers laquelle ce qui est autre devient le même. Par contre, la relation, l'idée de l'infini, elle n'est pas une pensée de l'égal. Et je pars de la notion cartésienne de l'idée de l'infini, ou l'idée atome de cette idée, c'est-à-dire ce à quoi cette idée conduit, est pour Descartes infiniment plus grand que l'acte même par lequel on le pense. Et pour Descartes, c'est une des preuves d'existence de Dieu, parce que la pensée n'a pas pu produire quelque chose qui la dépasse. Il fallait donc qu'elle soit mise en nous. Il faut donc admettre un Dieu infini qui a mis en nous l'idée de l'infini. Et je malbranche, Dieu est lui-même, Dieu est sa propre idée. Dieu est l'idée de Dieu. L'idée de Dieu ne peut être que Dieu. Chez Descartes, alors, il y a cette disproportion entre l'acte et ce à quoi l'acte accède. Dans ce que je dis du visage, le même dépassement de l'acte par ce à quoi elle mène s'est produit, et dans l'idée du visage, il y a l'accès à l'idée de Dieu. Mais alors que chez Descartes, l'idée de l'infini est une idée théorétique, est une contemplation de Dieu. Et par conséquent, l'idée est un savoir, de ce que le savoir ne peut pas englober, et par conséquent, un psychisme de l'inégal, un psychisme de l'extérieur, un psychisme de l'infini dans ce sens aussi. Moi, je pensais que la relation à l'infini n'est pas une contemplation, mais qui est un désir. Et j'ai essayé de décrire le désir différent du besoin par le fait qu'il ne peut pas être satisfait, que le désir, en quelque manière, se nourrit de ses propres fins, que le désir est comme une pensée qui pense plus qu'elle ne pense, qui pense plus que ce qu'elle pense. C'est une structure paradoxale, mais qui n'est pas plus paradoxale que cette présence de l'infini dans un acte fini.